Bonjour, Radio Massivière. Eh bien moi, je suis donc Thierry Dolivet. Je suis avec un collègue, là on est deux porte-parole de la Confédération Paysanne Creusoise. Et ici on a une activité, on est éleveur, mais éleveur d'abeilles en fait. Donc ça change un petit peu de la majorité de ce qui se fait sur le pays. Et donc l'idée c'était de présenter un petit peu ce qui va se passer à l'Assemblée Générale. Sachant que le matin, donc, c'est réservé plutôt aux adhérents, l'AG statutaire, quoi, en fait, classique. Et l'après-midi, c'est par contre ouvert à tous, hein, que qu'on soit paysan ou pas du tout, d'ailleurs. Et c'est aussi l'intérêt de pouvoir partager sur des sujets qui nous touchent tous, de par justement l'évolution du climat, les sécheresses qu'on a connues depuis 2 ans, les hivers très doux. Enfin, on voit qu'il y a un problème. Une évolution qui fait qu'on est obligé de s'adapter puisque ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'éleveurs. Ben disons qu'on a beaucoup de ressentis en fait personnels vis-à-vis de cette sécheresse là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existe depuis plusieurs années une étude qui se fait à l'échelle du Massif Central et des départements limitrophes, qui s'appelle donc AP3C. Hein, c'est-à-dire c'est une pour adapter les pratiques culturales au changement climatique. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle est faite vraiment à partir des stations météo locales. Donc on peut vraiment observer, pour le Massif Central et limitrophe, l'évolution, la situation des dernières années, et la comparer par rapport au passé. Et donc ça nous donne des résultats qui sont vraiment précis, et pas juste de dire qu'il y a un réchauffement climatique comme ça mondial, mais de voir quelle transcription il y a ici chez nous, très concrètement, et c'est ça l'intérêt. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, on a des étés qui sont très chauds, manque de pluviométrie, on a des hivers qui sont très doux, et on a des périodes qui sont très pluvieuses, comme on vient de le voir, et en fait, on se rend compte que ce sont des scénarios vraiment comme ils ressortent de ces études. Et donc, ça va permettre de, au-delà d'un ressentiment personnel et pas toujours très objectif, qui n'est pas toujours très objectif, justement, d'avoir quelque chose d'un peu plus objectif. C'est pas.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quels sont les enjeux actuels, en fait? Il y a on parle du climat, du changement climatique, des changements de saison.
Ben les enjeux, c'est pour les éleveurs, puisqu'on est surtout ici éleveurs bovins. Mais il y a aussi une production de légumes, il y a aussi diverses activités. Mais l'enjeu, c'est de voir, plutôt que de simplement subir les événements, de pouvoir les anticiper et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit changer de pratique, changer de culture, pour ne pas être dans des situations que l'on connaît beaucoup en Creuse cette année encore, c'est-à-dire des manques de trésorerie, obligés d'aller chercher du fourrage ailleurs. Donc c'est un vrai problème, autant économique, même presque que psychologique, avec le désarroi de certains. Donc c'est vraiment anticiper et voir concrètement quelles sont les méthodes qu'il faut changer. Et des méthodes, il y en a, parce qu'on voit que par rapport au manque d'eau, on sait qu'au niveau des sols, constituer plus d'humus dans le sol, ça permet de retenir mieux l'eau dans le sol. De faire des prairies sous des couverts de céréales sont aussi des alternatives qui deviennent intéressantes. Il y a un gros problème de chargement hectare des animaux en Creuse qui est quand même très élevé. Donc, ce qui induit forcément un déficit après de foin et de fourrage. Donc là aussi, il y a une grosse réflexion à avoir. De plus en plus, on voit des paysans qui ont recours à des semences population, que ce soit pour le maïs ou autre. Et donc, ce sont plutôt que d'acheter systématiquement la graine, ils font leurs propres semences. Et au fil des années, on a des semences qui sont vraiment bien adaptées au terrain, qui résistent, qui s'adaptent donc dans des situations de sécheresse, finalement, qui s'en sortent assez bien. Après, dans tout ce qui est production de légumes, on sait que développer les méthodes de goutte à goutte pour arroser très localement et consommer très peu, mettre du paillage. Il y a un certain nombre d'alternatives comme ça qui existent et qui sont en fait déjà des méthodes qu'on prône au sein un petit peu de l'agriculture paysanne, ce qu'on appelle à la conf, c'est-à-dire vraiment un certain nombre de méthodes qui ont une approche globale, autant de résilience et d'indépendance vis-à-vis de l'eau que vis-à-vis des intrants. Et c'est encourageant de voir que des méthodes, ou même qui sont utilisées depuis longtemps chez les agriculteurs bio, qui étaient vues souvent de façon un peu condescendante, sont des méthodes aujourd'hui qui reprennent du respect par l'ensemble de la profession.
Et est-ce que vous avez des exemples de d'autres régions de la France qui sont déjà mis en question et qui ont déjà mis en pratique d'autres types de pratiques, en fait, de pratiques, je ne sais pas, dans les régions voisines, en Haute-Vienne ou...
Ben, le changement qu'on a depuis 2 ans est tellement brutal, en fait, que ça a quand même un peu surpris tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde est dans le même questionnement. Et par rapport à ça, on peut regarder un peu ce qui se fait dans les pays du Sud, ou le Sud-France, ou l'Espagne, enfin des zones comme ça, où ils sont confrontés à des périodes de sécheresse depuis un peu plus longtemps. Mais les méthodes n'ont pas toujours été les bonnes, parce que de créer, comme en Espagne, des retenues d'eau à tout va, ça a dans un premier temps permis effectivement de continuer à produire et de garder les mêmes systèmes de culture. Mais le problème s'aggravant, en fait, ça a atteint ses limites. On voit qu'il y a des gros problèmes de manque d'eau potable dans ces pays-là. Et en fait, si on se met, si le seul réflexe c'est de créer des retenues d'eau à tout va, en fait, on va à la tête dans le mur, puisque finalement, on ne résout pas le problème et ça va faire qu'empirer les choses à long terme. Oui, en fait, c'est pour ça que les propositions qu'on fait, c'est-à-dire que la position qu'on défend, c'est qu'effectivement, il faut commencer déjà par réfléchir à économiser l'eau. Et économiser l'eau, ça veut dire revoir nos pratiques ou nos cultures. Et c'est un petit peu les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Et après ça, effectivement, il y a malgré tout, dans certains cas, besoin de créer des nouvelles retenues d'eau. Mais il faut voir ça par ordre de priorité. C'est-à-dire que l'eau potable, déjà, pour le robinet, pour tout le monde, c'est la priorité des priorités. Mais après, utiliser l'eau en agriculture, c'est après l'utiliser pour l'alimentation humaine. Donc là, on voit que ce soit la production de semences, la production de légumes. Et le sondage qu'on avait fait auprès des maraîchers de la Creuse, là, c'est qu'en fait, le besoin en retenue d'eau est malgré tout assez petit, puisque les sondages ressortent qu'on parle de 1000 à 3000 mètres cubes. Donc ce sont vraiment des toutes petites retenues d'eau. Donc l'intérêt, c'est de concilier des pratiques qui économisent l'eau et en même temps d'avoir une consommation d'eau qui est le plus faible possible, ramenée à la surface. Donc les méthodes de goutte à goutte pour le maraîchage ou le paillage entre les rangs sont des bons exemples. Et c'est vrai que après, c'est le résultat de ces études-là qui sont faites par AP3C qui nous permettra de voir si on a une approche suffisamment pointue ou est-ce qu'il y a des choses encore à faire évoluer sur l'évolution des pratiques dans le futur, en fait.
Les consommateurs sont concernés par ces nouvelles... Vous pensez qu'eux-mêmes se sentent concernés par ces nouvelles questions et ces nouvelles mises en question de la culture ?
Le consommateur, il est déjà concerné parce qu'il est utilisateur d'eau. On a vu la ville de Guéret qui était à deux doigts de tomber en rupture d'eau potable au robinet. Donc l'utilisation de l'eau, elle concerne évidemment tout le monde. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à la consommer avec modération, on va dire. Après, sur l'aspect agricole, c'est comme tout, enfin d'une façon beaucoup plus globale, l'acte de consommer et d'achat de tout un chacun, il a quand même une répercussion sur... il crée une demande sur le marché, sur la production agricole. Et donc, si le consommateur va vers une production locale, économe en eau, ça va évidemment soutenir et favoriser ce type de développement. Et au contraire, si on continue à regarder à acheter au premier prix des produits qui viennent de très loin et qui sont parfois très consommateurs d'eau, eh bien, là encore, on va favoriser un autre système. Donc c'est aussi un choix politique par ce biais-là, quoi. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'était par rapport à l'économie d'eau, c'est-à-dire que ces créations de retenues d'eau qui sont parfois nécessaires. Notre idée, justement, c'est que pour éviter qu'on crée des retenues d'eau et puis qu'on continue à avoir les mêmes pratiques agricoles que par le passé, qui vont toucher très vite leurs limites, c'est-à-dire de les conditionner, on pourrait imaginer de les conditionner à une mesure agro-environnementale, les MAE, qu'on appelle ça, une MAE qui obligerait à prendre des mesures d'économie d'eau. C'est-à-dire créer des retenues d'eau pour arroser certaines cultures ou dans certaines situations, d'accord, mais conditionné au fait qu'il est important en même temps de mettre tout en œuvre pour économiser cette eau. Sinon, c'est l'aberration qu'on connaît dans d'autres départements limitrophes, enfin dans le Poitou, quoi, d'arroser au canon à eau, même par forte chaleur, et la moitié de l'eau s'en va en évaporation, enfin donc... Il y a des erreurs qui ont été faites par le passé qu'il faut éviter qu'il faut à tout prix les empêcher aujourd'hui.
Qui continuent dans certains départements.
Ce qui est en place, Mais là, c'est vrai que pour l'instant, il y a très peu de réseaux d'irrigation. Donc, ça va peut-être devenir un peu plus nécessiteux. Mais c'est pour ça que c'est important de le faire encadré et dans de bonnes conditions pour ne pas faire n'importe quoi.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de la Terre ? Crozoise.
On est optimiste si au lieu de se mettre la tête dans la terre pour faire l'autruche, si on accepte de regarder les problèmes en face et de se remettre soi-même en question et nos pratiques, puisqu'on n'a pas de certitude, donc il faut accepter effectivement que les choses changent. Mais c'est là où le rôle des consommateurs est aussi important, c'est-à-dire que le consommateur, si il continue à avoir l'impression que d'acheter au premier prix, ça va permettre de faire changer les choses, c'est une erreur, parce que souvent de fois, le premier prix, en agriculture, on est capable de faire de la viande, ou de faire des céréales, ou de faire plein de choses à un coût très bas, mais aux dépens d'une qualité environnementale, de normes sociales, enfin, donc, il faut prendre conscience de ça, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est aussi, on voit qu'on a besoin de jeunes installés en agriculture, il y en a de moins en moins. Mais c'est vrai que si on veut réussir ces futures installations, les consolider, il faut prendre en compte toutes ces réflexions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à installer des jeunes en élevage bovin avec des chargements hectares qui dépassent les 1,5, 1,7. C'est-à-dire des gens qui vont être toujours en flux tendu et qui n'auront pas possibilité de faire face à une période de sécheresse et d'être dans la situation où on serait obligé de donner du fourrage beaucoup plus que d'habitude ou beaucoup plus tôt. Souvent de fois, les emprunts sont ahurissants, quoi. On voit des gens qui s'installent avec 500 000, 700 000 euros d'emprunt. Je veux dire, il y a déjà assez de paysans qui se donnent qui passent la corde autour du cou, donc... C'est important de se poser toutes ces questions-là pour justement éviter que des jeunes qu'on installe dans 5, 6, 7 ans se retrouvent à être obligés d'être aidés par Solidarité Paysan parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'il n'y a plus de trésorerie et que les gens désespèrent. Bon, disons que c'est pour ça que c'est toutes ces questions qui sont importantes à partager et l'après-midi sera l'occasion d'en parler avec le plus de monde possible. Encore une fois, que ce soit du monde agricole ou du citoyen, ce sont des questions qui concernent tout le monde. Et donc, on sera content d'échanger, de partager les idées avec tout le monde. Alors, l'après-midi, c'est à partir de 14h. De 14h à 17h. Et donc, ça se trouve à Bourg-à-Neuf, à la salle de Maurice Covin. C'est la salle qui se trouve juste à côté du terrain de foot, en fait, à Bourg-à-Neuf. Et donc, mardi prochain, mardi 10 décembre.
Et est-ce qu'on a besoin de s'inscrire pour participer à la discussion ?
Y a la possibilité de s'inscrire en le faisant savoir, mais ce n'est pas une obligation. Enfin, de toute façon, l'après-midi est ouverte, donc on peut venir spontanément.
Eh bien, merci beaucoup Thierry.
Eh bien, merci.
Et à mardi.
À mardi.